Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et aujourd'hui je suis là avec notre directrice de la rédaction, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Jérémy.
Eh bien, je trouve sur ma table un nouveau numéro de la revue Causeur. Et il y a une photo de Delphine Ernotte-Kunzi, présidente de France Télévisions. Eh bien, pourquoi on l'a interrogée et qu'est-ce qu'elle a dit en réponse?
On l'a interrogée j'y reviendrai sur beaucoup de choses, mais pourquoi on l'a interrogée maintenant? Ben, pour deux raisons. La première, c'est qu'avec l'affaire CNews, Conseil d'État, Arcom CNews, si je puis dire, et pour le dire autrement, avec la campagne menée contre CNews, y compris jusqu'au Conseil d'État, la question du pluralisme dans les médias est devenue un enjeu important du débat. Ça a été à la une de l'actualité. La question est d'ailleurs très importante. Et évidemment, quand on parle de pluralisme dans les médias, et surtout quand on accuse CNews, la tendance que des gens qui travaillent, y compris votre servante, c'est de dire « Non mais on va nous donner des leçons de pluralisme à nous, regardez donc le service public ». Le service public est souvent accusé de partialité, d'ailleurs comme c'est le cas dans le monde entier, à vrai dire, l'audiovisuel public est de gauche, il est progressiste en tout cas, c'est comme ça. Bon, alors donc, et Delphine Ernotte avait en plus fait des déclarations publiques qui avaient prêté à polémique à juste raison, elle s'était insurgée contre cette télé de mâles blancs de plus de 50 ans. Elle avait dit devant la commission du Sénat qu'elle voulait représenter la France telle qu'elle la rêve plutôt que telle qu'elle est, la France comme elle voudrait qu'elle soit. Donc, on la considérait un peu comme une passionnariat, peut-être pas, c'est pas son genre, mais disons quelqu'un de plutôt woke. Et donc, ceci et cela faisant, je me suis dit que c'était quand même le bon moment pour parler de France Télévisions. Il faut dire que nous avons l'habitude de parler de France Inter, nous avons fait deux ou trois unes, il faut bien varier les plaisirs de temps en temps. On n'avait jamais finalement enquêté sur France Télé, c'est ce qu'on a fait. J'ai fait cette interview de Delphine Ernotte et j'avoue que j'ai été déçu en bien, comme on dit en Suisse, et que c'est vrai, c'est toujours amusant quand on arrive armé de ses préjugés, des jugements qu'on s'est forgés avant, et que ces préjugés se heurtent à une personne réelle, c'est toujours amusant, parce qu'en fait, très peu de gens, ça existe, je ne vais pas les nommer ici, mais il y a des gens qui correspondent point pour point à leur caricature, mais c'est assez rare. Et donc, c'est pas le cas de Delphine Ernotte, j'ai trouvé quelqu'un de très ouvert, avec qui a de l'humour, on s'est disputé, on s'est marré. Et voilà, je crois que ça donne une conversation intéressante. Et en plus, surtout, si vous voulez, au moment de l'affaire CNews, j'ai été quand même sidéré par le silence d'une grande partie de la profession, si vous voulez, que j'attendais en rang serré, criant « nous ne partageons pas leurs idées, mais nous nous battrons pour qu'eux », etc., etc. À part Étienne Jernel et quelques autres, ça a été pas extraordinaire. Le Point, oui, comme média, a été tout à fait... avec CNews et du côté de la liberté surtout, et donc que Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, la place de la concorde des médias en France, si vous voulez, nous disent « je ne veux pas la mort de CNews », eh bien oui, j'ai considéré que c'était une preuve de liberté, d'ouverture, et que c'est important qu'il y ait des gens pour défendre la liberté aujourd'hui.
Et si la présidente a fait une très bonne impression, est-ce qu'on peut en dire autant de ces chaînes, des chaînes qu'elle dirige? Est-ce que ces chaînes-là sont à l'image de...
Alors, ça c'est d'abord, il y a évidemment, il y a un biais idéologique dans le service public de l'audiovisuel, comme il existe d'ailleurs, tous les médias ont en réalité une idéologie, et ceux qui pensent ne pas en avoir, c'est qu'ils ont celle de tout le monde. Donc, bien sûr, on attend du service public un peu plus en termes, disons, de pluralisme et de neutralité, précisément parce que il fonctionne, il vit avec l'argent de tous les Français. Maintenant, c'est très compliqué de décrire un climat idéologique, d'autant plus que chacun a vu un jour un truc, là ou là, mais on passe pas notre journée devant les 5 ou 6 chaînes de France Télé, si vous voulez, et nos soirées, donc en conséquence, c'est toujours très impressionniste, quand vous interrogez les gens, ils vous disent c'est horrible, mais après vous demandez, mais en quoi? Donc, c'est une enquête impressionniste, je voulais dire ça, mais oui, j'ai quand même essayé d'enquêter, et Je parlerai plutôt que c'est pas France Inter, comme ils le disent tous eux-mêmes. Ils disent nous, on n'est pas France Inter, et c'est vrai. Et c'est vrai d'ailleurs pour de pures raisons commerciales. Ils ont besoin eux d'avoir vraiment tout le monde, si vous voulez. Donc, il y a un ronronnement progressiste. Il y a aussi des territoires, je dirais, comment dire, des terres irrédentistes, des territoires, des républiques autonomes, où, si vous voulez, vous avez plus d'idéologie, comme par exemple les émissions d'investigation, cache investigation, complément d'enquête, envoyé spécial, si vous voulez, de plus. L'audiovisuel public, c'est quand même, il y a une particularité, c'est que les présidences, les directions n'ont absolument pas pouvoir hiérarchique direct sur les journalistes. Donc, ça crée des rapports de force tout à fait intéressants. Donc, ça m'a intéressé. Évidemment, je pense qu'il y a un ronronnement progressiste, il y a quelquefois des choses scandaleuses, il y a une façon dans les... Je raconte comment je suis tombée sur une fiction assez marrante où il est question d'un attentat terroriste. Elle est pas du tout marrante, hein, mais moi, ça m'a fait rire, parce que, si vous voulez, tout est cousu de fil blanc. À la fin, on laisse entendre que, évidemment, les terroristes ne sont pas du tout là où on peut s'attendre. Et je dis dans mon papier, vous verrez qu'à la fin n'est pas encore parue, vous verrez qu'à la fin, les terroristes seront des grands blonds. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de... Voilà, l'immigration est toujours traitée sur un mode très compassionnel. Maintenant, si vous voulez, je dirais par exemple sur le Proche-Orient, je dirais plutôt qu'ils ont fait ils ont fait attention, ils ont fait un effort d'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de parti pris, mais par exemple, voilà, donc je trouve, oui, il y a un peu de... Il y a ce que j'appelle un ronronnement, une musique d'ambiance. Si vous voulez, mais ça progresse. Il y a quelqu'un qui m'a quand même fait remarquer en disant, vous vous rendez compte, on a quand même dit que la meurtrière de Lola était sous OQTF. donc voyez, la lumière progresse. Mais en tous les cas, c'est des gens qui sont pas ils traitent pas tout le monde de fachos autour d'eux, et ils traitent pas leurs téléspectateurs de fachos, de populistes, de ploucs toute la journée, et ils ont bien raison, la morale rejoignant là les intérêts.
Merci Elisabeth. Je viens d'être rejoint par Jonathan Sixou, le rédacteur en chef des pages Culture de Causeur. Bonjour Jonathan.
Hello Jérémy.
Merci pour l'intervention bilingue. Jonathan, parlez-nous des pages Culture de Causeur ce mois-ci.
Avec joie, d'autant que nous avons ce mois-ci un très beau sujet concernant Philippe Muret. Philippe Muret, qui est un peu la figure tutélaire de Causeur, dirais-je, une sorte de parrain intellectuel de notre rédaction. Philippe Muret a la bonne fortune éditoriale et nous, ses lecteurs, de pouvoir lire les deux ultimes tomes de son journal paru aux Belles Lettres. Et pourquoi nous sommes particulièrement heureux, c'est que l'article est signé de Georges Liébert. Georges Liébert, qui est essayiste, a bien connu Muret pour une raison simple, c'est qu'il a été son éditeur. Et c'est lui qui l'a fait entrer chez Gallimard il y a quelques décennies de cela. Et personne d'autre que Georges était aussi bien placé pour signer un très beau portrait de Philippe Muret. Nous parlons de son journal, mais nous parlons surtout de l'auteur, parce que la somme du journal est considérable. Les deux volumes dépassent les 1000 pages réunies. Mais Georges Liébert arrive à faire une excellente synthèse de l'œuvre de Muret, en particulier donc de son journal, qui est la pièce centrale, dirais-je, de son héritage. Et Liébert pointe très justement le fait que Muret relève les symptômes d'une mutation anthropologique en cours. C'est une mutation anthropologique de notre société, de notre monde, de notre pensée, et cela a des effets ravageurs. On le voit au quotidien, et malheureusement, cela alimente beaucoup de nos sujets dans Causeur, numéro après numéro. Et on profite également de souligner Toujours aux belles lettres, en ce mois de mars, la réédition d'un chef-d'œuvre qui est le 19e siècle à travers les âges. C'est un ouvrage majeur, là aussi, de Philippe Muret, qu'on ne peut que recommander. Il a pendant des années été édité dans un format poche difficilement lisible. Et là, les belles lettres lui offrent vraiment les belles pages, un grand format que cet ouvrage mérite. Nous parlons également, et c'est votre serviteur qui signe un petit texte sur un très beau livre qui est consacré au Champ de Mars. Ce sont les Amis du Champ de Mars qui publient un livre qui s'intitule sobrement Le Champ de Mars 1900-1930 et qui nous montre à travers toute une recension photographique, à travers des plans, à travers des photos anciennes et beaucoup de détails des façades, à quel point le Champ de Mars, qui est actuellement un concentré du chaos Hidalgo, alors que c'est vraiment l'épicentre touristique de la capitale, Le Champ de Mars est un véritable musée à ciel ouvert où les façades Art Nouveau côtoient les façades Art Déco avec un bestiaire incroyable, avec un travail d'architectes et d'artisanat dans les ferronneries, dans les huisseries, etc., dans les sculptures et bas-reliefs, tout proprement extraordinaire, hors du commun dans cette proportion. Et nous saluons au passage notre ami Pierre Lamalati, membre éminent des Amis du Champ de Mars et qui signe plusieurs textes dans cet ouvrage collectif qui choisit volontairement de faire l'impasse sur la situation actuelle, sur les vols, les viols, la saleté, les rats, etc., pour ne parler que de la beauté. Et c'est bien de défendre aussi Paris à travers cette beauté. On quitte Paris également grâce à Emmanuel Daumont, qui est allé rejoindre Simon Liberati chez lui, à la campagne, du côté de Villers-Cotterêts. Et c'est un petit reportage très touchant. Je dis petit parce qu'il fait quelques pages, mais... Simon Liberati lui a ouvert les portes de sa maison, lui a ouvert les portes de la création intellectuelle et artistique. Et Emmanuel Daumont signe un portrait très touchant de cet auteur qui sort La hyène du Capitole. C'est le deuxième tome d'une trilogie à venir, une trilogie qui avait commencé avec Les démons, sorti il y a quelques années. Au chapitre des livres, il y a la boîte du bouquiniste qui rencontre mois après mois son petit succès auprès de nos lecteurs. Et Pascal Louvrier signe un texte très drôle et très, très touchant, là aussi, concernant Albert Simonin. Albert Simonin qui a notamment écrit « Touchez pas au Grisby » et d'autres polars qui ont été adaptés au cinéma, comme l'on sait. Il a beaucoup travaillé, notamment avec Audiard. Et cela a créé parmi les petits chefs-d'œuvre, les grands chefs-d'œuvre, que dis-je, du cinéma de ces 50 dernières années, dirons-nous. Et moi, je vous propose, Jérémy, pour conclure, une petite douceur grâce à Emmanuel Tresmontant, qui, lui, s'est fait ouvrir les cuisines de Jacques Génin, le laboratoire, comme on dit, Jacques Génin, qui n'est autre que, allez, n'ayons pas peur des mots, le plus grand chocolatier pâtissier de France. Et on apprend que rien, mais alors rien, ne prédisposait Génin à devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a eu une enfance dure, très très difficile, mais au lieu de devenir délinquant, de sombrer dans quoi que ce soit, ben lui, il a décidé de mettre sa hargne, sa rage, sa force au service de la cuisine, alors qu'il n'y connaissait au départ strictement rien. Et c'est avec une certaine dose de culot qu'il a commencé sa carrière, et aujourd'hui, ben, c'est l'un des papes de la profession. Voilà ce que nous pouvions dire pour ce numéro de mars 2024.
Merci Jonathan, et merci à nos auditeurs. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.